Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et je rajoute, et ce même jour, la persécution des chrétiens commença. En ce qui nous concerne ici, nous vivons des temps de prospérité, en tout cas, nous sommes libres. Et si on réfléchit un peu, si on se penche sur le passé, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de la France qu'il y a une période aussi longue de paix, de tranquillité à tous les niveaux, et que notamment les chrétiens peuvent exercer leur foi tranquillement. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Nos ancêtres ont payé un prix très élevé pour que aujourd'hui nous puissions lire la parole de Dieu et être libres de nous réunir. Hein, surtout dans la Flandre ici, il y a eu énormément de chrétiens exécutés, brûlés, torturés, écartelés pour leur foi. Aujourd'hui, après bien des années, nous vivons dans une société qui est une société utilitariste. Il faut que ce qu'on fait ait un sens, que ça aille vers un objectif, et que cet objectif soit visible, qu'on puisse le toucher et qu'on puisse le réaliser. Malheureusement, c'est devenu le cas aussi dans l'Église. On marche beaucoup à force d'objectifs, à force de projets, et pareil, on veut voir les fruits. Et lorsqu'un prédicateur peut mettre beaucoup de croix parce que beaucoup de mains se sont levées à la fin d'une prédication, et il est sûr qu'il sera réinvité dans un endroit ou un autre parce qu'il fait du chiffre. Alors, en réalité, cela montre une chose, c'est que l'homme, où qu'il soit, ce qu'il souhaite, c'est exister. C'est qu'on le voit. Ce qu'il compte, qu'il ait l'impression de servir à quelque chose. En réalité, ce que nous voulons, c'est que notre vie ait un but. Nous voulons voir ce but, voir le sens de la vie. Parce que sinon, nous nous sentons mal. Mais ce n'est pas le cas, nécessairement. Il y a beaucoup de gens ailleurs que chez nous qui ne vivent pas longtemps. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas très longtemps et qui, lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur, n'ont aucune idée du but et du sens de leur vie. Il y avait à l'époque de l'Union soviétique, du bloc de l'Est, un pasteur baptiste qui a été arrêté parce qu'il était accusé d'imprimer des Bibles en cachette, ce qui était vrai. Et là, il a été battu et torturé pour qu'il dise où était caché son imprimerie clandestine. Et il a refusé. Rien à faire. Il était impossible de lui faire dire où était cette imprimerie clandestine. Alors, ils sont allés chercher son fils de 16 ans et lui ont dit, voilà, où tu nous dis où est cette imprimerie, où nous allons battre ton fils devant toi jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à ce que tu nous donnes l'endroit où se situe cette imprimerie. Ils ont commencé à le battre, et à le battre, et à le battre. Ils pouvaient entendre ses os se briser. Ils pouvaient l'entendre hurler devant lui. Ils pouvaient le voir. Et il était tout près de craquer. Lorsque cet enfant a crié, 16 ans, « Papa, n'abandonne pas !» N'abandonne pas. Je vois Jésus qui vient me chercher et il est magnifique. Si nos vies sont réellement abandonnées à Dieu, le fait que nous vivions ou que nous mourions n'a pas beaucoup d'importance. Le fait que nous arrivions à mettre un sens ou un but à nos vies n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est absolument prodigieux et que nous ne réalisons pas, c'est que nos vies, juste parce que Christ est venu pour nous sauver, c'est que nos vies ont pour lui une importance absolument prodigieuse. Que nous pensions que nous faisons de grandes choses ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est prodigieux, c'est qu'il nous aime comme il nous aime et avec un amour qu'aucun d'entre nous excusez-moi, je crois que je suis jamais arrivé au bout. Aucun d'entre nous n'arrive à réaliser. Et peut-être moi, le dernier. Parce que les gens qui ont l'habitude de pleurer ont des mouchoirs sur eux. C'est bien, Léonie, ne change pas. Et ce matin, j'aimerais nous poser une question, comme souvent. Cette question, c'est de quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Est-ce que nous sommes vides de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes remplis de Christ? Si nous savons peut-être que nous ne sommes pas remplis de Christ, est-ce qu'au moins nous sommes à la recherche de cela? Est-ce qu'au moins nous recherchons à ce que Christ nous remplisse de lui-même, qu'il fasse le vide en nous afin de pouvoir nous remplir de l'esprit de son Fils? Pour illustrer un peu ça, j'aimerais aller dans Jérémie, chapitre 48. Où on parle de Moab, le peuple qui est issu de Lot. Et il est dit au verset 11, « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. » 48, verset 11. « Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. » Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Il était tranquille dans sa jeunesse. En Occident, on peut assez facilement être des chrétiens tranquilles. On peut facilement passer sa vie sans être troublé par quoi que ce soit de difficile. Je sais bien, Paul nous disait tout à l'heure, on connaît des tempêtes, certes. On connaît des tempêtes. Une question qui se pose, est-ce que les tempêtes que l'on a, elles sont du fait de notre foi en Jésus-Christ ou est-ce qu'elles sont du fait de notre stupidité? Ce n'est pas la même chose. Il y a des tempêtes et lorsqu'elles viennent du fait que l'on veut porter le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors elles ont réellement une importance. Mais pour les chrétiens en Occident, il suffit de réfléchir un tout petit peu à comment bien se conformer au monde en essayant de ne pas trop se compromettre quand même parce que sinon on ne se sent pas bien à l'intérieur. Et alors on peut passer comme ça tranquillement toute sa vie et mourir de la paix du juste, de la paix du celui qui est tranquille. Hein. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Lorsque l'on veut vivre un peu radicalement pour Jésus-Christ, on connaît toujours des difficultés. On connaît toujours des problèmes. Ne serait-ce qu'à votre travail, je ne sais pas, si vous êtes employé et que votre patron vous dit « Écoute, si le téléphone sonne, tu dis « je ne suis pas là hein. ». Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, pour le nom de Jésus-Christ, vous dites non, je ne dis pas que tu n'es pas là, je dis que tu es là. Et évidemment, ça va avoir une incidence sur vos relations avec vos collègues, peut-être sur votre avancement dans l'entreprise ou dans l'administration. Si vous vendez, je ne sais pas, du papier peint et que un client vient vous voir avec un rouleau, et il vous dit « Ah, est-ce que ça va aller chez moi ?» Il vous décrit son intérieur et alors, ben la première des choses, c'est quoi? Vous regardez la référence du produit? Vous calculez rapidement, parce que vous êtes bon en calcul mental, la marge que vous allez faire sur le papier? Et en fonction de ça, vous allez lui donner votre réponse. Une grosse marge? Oui, ça ira très bien chez vous. Petite marge? Ah non, ne prenez pas celui-là, je vais vous guider. Si l'on est chrétien et si l'on veut porter le nom de Jésus, alors on est honnête. Et quitte à perdre du chiffre d'affaires, eh bien, on va dire la vérité. Vous savez, dans une entreprise, si vous ne faites pas le chiffre d'affaires, eh bien, vous ne faites peut-être pas long feu dans l'entreprise. Peut-être qu'on va vous dire au bout d'un moment, ben, vous ne faites pas l'affaire. Est-ce que nous choisissons d'être tranquilles ou est-ce que nous acceptons de payer le prix qui finalement est faible en comparaison de ce que d'autres doivent payer, n'est-ce pas? Le croyant doit se poser des questions. Il doit se les poser non pas pour savoir comment je vais pouvoir vivre tranquillement. Mais comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans mon quotidien? En Égypte, il y avait un groupe de jeunes hommes qui priaient et jeûnaient pendant le Ramadan. C'était un groupe de jeunes. Ils priaient et jeûnaient parce que déjà, c'est un moment où les salafistes sont très énervés parce qu'ils ne mangent pas toute la journée, ils travaillent 12 heures, 14 heures par jour, Et le soir, en plus, ils sont dans des bouchons. Et donc, quand ils rencontrent un chrétien, ça peut très mal se passer. Et donc, il priait pour cela. Et pendant qu'il priait, il ne disait pas au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu peux nous préserver des salafistes, s'il te plaît ?» Il disait, « Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les bénir ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour leur montrer notre amour ?» Alors, il y en a un qui s'est dit, « Mais ils ont faim à la fin de la journée. Ils prient. Ils pensent qu'en faisant cela, ils vont trouver Dieu ou ils vont plaire à Dieu. Et ils ont faim à la fin de la journée. Eh bien, donnons-leur à manger. » Et donc, ils ont décidé qu'ils feraient des petits sachets dans lesquels ils mettraient des dates. Ils se sont dit, ben, en plus de ça, on vient de faire un enregistrement de... Il y avait un musicien évangéliste qui venait de passer. Ils avaient enregistré. Ils ont fait des copies de ce CD. Et ils ont tout mis dans un petit sac. Et ils sont partis dans les bouchons. Et ils ont distribué ça en fin de journée à tous ceux qui voulaient bien les prendre. Eh bien, croyez-moi, ils ont été bien accueillis. Mais croyez-moi, ils ont aussi pris des risques. Parce qu'ils se sont montrés. C'est plus facile de rester caché. Est-ce que nous nous montrons ? Est-ce qu'ils savent autour que nous appartenons au Seigneur ? Est-ce qu'ils savent que nous portons le beau nom de Jésus parce que nous les bénissons ? Un peu plus loin, Moab reposait sur sa lie. Il reposait sur sa lie. La lie du vin, ce sont des sédiments qui se déposent. Je crois que c'est de la levure et puis des différents éléments qui sont là et qui se décomposent. Et le vin est censé se bonifier comme cela. Le vin prend là tout son arôme, toute sa puissance, toute sa force. Alors pour les œnologues, il y a deux sortes de vins. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, ils peuvent dire que parmi les vins, il y a les vins qui sont prétentieux et il y a les vins qui sont conviviaux. Et celui qui repose sur sa lie, et bien souvent un vin qui se veut prétentieux. C'est-à-dire qu'il se bonifie pour lui-même. Si vous avez croisé des vrais spécialistes du vin, et j'en ai croisé puisque j'ai fait l'école hôtelière, eh bien, sachez qu'il y a des vins que jamais vous ne pourrez boire. Jamais. Parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Parce que vous n'avez pas l'argent pour l'acheter. Ou parce que tout simplement vous n'êtes pas dans les bons milieux, parce que ça se boit en petit comité avec des personnes qui sont choisies et on se retrouve à 3-4 avec un cigare, un barreau, hein, on appelle ça un barreau de chaise, un cigare cubain, et cette bouteille de vin qui a reposé sur sa lie pendant des années. Et tout ça se veut extrêmement convivial, juste pour les 4 personnes qui sont là. Personne d'autre n'en saura jamais rien. Alors Moab, c'était cela. Est-ce que nous sommes des chrétiens spéciaux ? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui sont conviviaux ? Est-ce que nous sommes de ceux qui se bonifient avec le temps au point que finalement, il n'y a plus guère que l'élite qui arrive à nous comprendre chez les chrétiens ? N'est-ce pas, lorsque l'on parle Les mots n'ont de sens que pour ceux qui ont fait les mêmes études. Ou est-ce que nous savons juste être des chrétiens communs, normaux, qui peuvent se distribuer, se partager, être partout, avec tout le monde, être compréhensible et être compris. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Wang Mingdao, qui était un chrétien chinois qui avait énormément de succès, très grand évangéliste, un homme de Dieu remarquable, de grande capacité oratoire, un auteur également. C'était quelqu'un qui était un prédicateur. Et à 60 ans, on l'a envoyé en prison pour 22 ans. Et là, il dit, je me suis retrouvé seul, dans une cellule, sans ma Bible, avec personne à qui partager. Il ne me restait plus qu'une seule chose. Je n'avais plus rien d'autre à faire. Apprendre à connaître Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous pensez être en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Mais jour après jour, je m'aperçois que ce que nous pensons être, quelque chose, est finalement bien peu. Et qu'il y a des possibilités de rencontrer les profondeurs de Dieu et d'aller dans les profondeurs de Dieu tel que nous n'imaginons même pas que c'est possible. Alors, Dieu a besoin parfois aussi de nous construire une cellule, de nous mettre dans un endroit où il nous met à part et où tout disparaît et seul lui et sa splendeur merveilleuse reste présent. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Moab n'était pas vidé d'un vase dans un autre. C'est difficile, n'est-ce pas, de se donner, de donner aux autres, de soi-même, lorsque nous sommes très attachés à ce que nous sommes. N'est-ce pas? Si on est jaloux de nous-mêmes, si on est fier de nous-mêmes, eh bien, ce qu'on va donner, c'est juste le surplus, ce dont on n'a pas besoin, ce dont on sait, dont on peut se passer, ou ce qui est devenu obsolète. On calcule, on se donne, mais pas trop. Ah oui, mais vous savez, dans le passé, j'ai été abusé parce que je faisais trop confiance aux gens. Et parce que je donnais, voilà, je me suis fait manger. Alors aujourd'hui, je calcule. Nous donnons une petite touche. Et Dieu est obligé alors d'intervenir dans nos vies. Il est obligé de faire à notre place ce que nous ne voulons pas faire. Il est obligé de nous mettre dans un lieu où là, il va pouvoir sonder nos cœurs et nous montrer que ce qui compte, c'est juste lui. Il y avait un frère musulman, terroriste, extrémiste, qui était jeune, il avait 20 ans. Et il s'est converti. Et très rapidement, il s'est retrouvé à la tête d'une église de chrétiens anciennement musulmans. Il a été dénoncé à la police, mis en prison. Et là, ils ont commencé à le battre, à le torturer. C'est un scénario classique lorsqu'on aime le Seigneur. On arrive en prison, et la première des choses qu'on fait avec nous, c'est qu'on est battu et torturé. Et on lui a mis des décharges électriques dans la bouche, des coups de fouet, pendu au plafond, les mains dans le dos, pendant des heures. Et ensuite jeté dans une cellule d'1,50 m de côté. 1,50 m de côté, ça signifie que vous ne vous levez jamais complètement. Ça signifie que vous ne vous couchez jamais complètement. Et en plus, il n'y avait pas de fenêtre. Il faisait une nuit noire. Il était alimenté tous les 3 jours et il n'entendait aucun son. Alors, les prisonniers appellent ce lieu l'expérience. En général, on ressort complètement fou. Mais pas lui. Pas lui. Et je vais vous lire ce qu'il déclare. Et ce qu'il a retenu de cette épreuve. Quand tout va bien, nous déployons beaucoup d'imagination pour nous cacher à nous-mêmes ce que nous sommes vraiment et défendre notre ego. La douleur et la souffrance révèlent les points faibles de notre personnalité. Et lorsque la torture nous rend vulnérables au point que vous n'avez plus la possibilité de développer les mécanismes de défense habituels, alors vous ne pouvez plus qu'observer ce que vous êtes vraiment. J'étais une épave, pleurant, criant, sanglotant, gémissant dans l'obscurité totale. C'est là que j'ai pris conscience des choses terribles que j'avais faites et quel homme horrible j'étais. Mais alors que je sentais venir la mort, une révélation de qui était Jésus a illuminé ma cellule. Jésus m'aimait. Même assis dans ma propre saleté, faible, désespéré, vide et pécheur, il m'aimait. Christ s'est rapproché, m'a rempli de sa présence, et cette plénitude était d'autant plus merveilleuse que je me sentais vide. Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à donner aux autres le meilleur de nous-mêmes, c'est peut-être parce que nous n'avons pas été vidés de nous-mêmes. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors ce verset-là, nous pouvons le lire et le lire et le lire. Mais ce verset nous dit que lorsque l'on vient à Christ, on reçoit en nous une source d'eau qui nous désaltère nous-mêmes déjà, mais qui nous rend aussi capables de désaltérer les autres, de donner aux autres cette même eau qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous avons la source en nous-mêmes? Est-ce que cette source jaillit comme un fleuve? Et est-ce qu'elle inonde nos proches, nos amis, nos enfants, nos frères et sœurs dans l'Église. Nous pouvons recevoir de Christ une source d'eau vive, quelque chose que jusqu'à présent nous n'avons peut-être jamais connu. Est-ce que nous voulons être de ceux qui peuvent donner? Ou est-ce que nous sommes ceux qui ont toujours besoin de recevoir? Si nous sommes de ceux qui ont toujours besoin de recevoir, alors le Seigneur doit faire quelque chose. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. La conséquence de ce vin qui reste sur sa lie, ce vin qui n'est pas transvasé, qui ne passe pas d'un vase dans un autre, la conséquence, c'est que il y a donc un orgueil incommensurable qui s'installe et en même temps une grande incrédulité. Et là, c'est le désespoir de Dieu. C'est le désespoir de Dieu lorsque son peuple, pour qui il a tant fait, pour qui il a tout accompli, n'est pas capable de donner autour de lui. Lorsque son peuple est rempli de lui-même, de son propre ego, et pas de l'Esprit de Dieu, alors Dieu est malheureux. Et c'est un cri du cœur que Dieu lance et qui Et il pose une question, mais qui ira dire à mon peuple ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va falloir à nouveau que la persécution arrive pour que mon peuple me retrouve? Malheureusement, c'est le message que nous donne notamment la Chine. Ne priez pas pour que la persécution s'arrête. Parce que la persécution fait remplir les églises. Priez pour que le confort de la vie, le matérialisme, ne nous vide pas nos églises. Est-ce que nous avons besoin de la torture et de la souffrance pour être vidés de nous-mêmes? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit obligatoire. Mais il y a un moment dans la vie où il faut se mettre face à soi-même, devant Dieu, et accepter de se voir tel que l'on est réellement. Accepter de se juger et de dire « Non, je ne suis pas arrivé où je devrais être. » La vie normale du chrétien, c'est une vie réveillée. On parle de réveil dans l'Église, alors ça veut dire que l'Église est endormie. La vie normale du chrétien, c'est d'être réveillé. Et Dieu à chacun a donné la possibilité, individuellement, de vivre une vie réveillée en Christ. Et une Église réveillée, c'est une Église dans laquelle chaque membre est lui-même réveillé. Ça n'est rien d'autre. Et lorsque une église est réveillée comme cela, alors il déborde quelque chose. Et ça déborde au-delà des limites des murs de l'Assemblée. Est-ce que nous voulons voir cela, frères et sœurs? Est-ce que nous voulons vivre cela? Il faut accepter de se mettre devant Dieu et de se voir tel que l'on est réellement. Et lorsque cela sera fait, eh bien, on pourra, comme Jonathan Edwards l'avait dit, être totalement rempli de son esprit et dire ce qu'il a dit lui-même il y a, je ne sais plus combien d'années. Jonathan Edwards, c'était quand? 16e? Écoutez ça. J'aime l'idée de venir à Christ pour recevoir de lui le salut en étant pauvre en esprit, vidé de moi-même et en l'exaltant lui seul, arraché à mes propres racines afin de grandir en Christ et par lui, qu'avoir Dieu en Christ soit mon tout. Je vais m'arrêter sur ces paroles. J'aimerais qu'on passe les 4 minutes qui restent à prier, à demander que le Seigneur nous vide de nous-mêmes pour que nous puissions être remplis par lui.